Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Voilà, nous revenons aujourd'hui sur la colère, la gestion de la colère. Comment arrivez-vous à gérer la colère lorsque vous êtes très fâché? Comment réagissez-vous? Est-ce que vous allez casser les appareils à la maison ou soit vous tempêtez, vous tapez du poing sur la table? Vous mettez mal à l'aise tout le monde dans votre entourage. Comment gérez-vous la colère quand ça arrive? On en parle avec Isidore Bamanaï, expert en éducation à la vie. Vous étiez nombreux la fois dernière à poser des questions. Voilà, on y revient encore aujourd'hui. Isidore Bamanaï, vous êtes en ligne depuis Mbujimayi. Bonjour.
Oui, bonjour Daniel.
Voilà, nous revenons sur ces sujets. La colère, c'est une émotion, c'est l'une des émotions. Et certains disent que la colère, elle est tout à fait normale, c'est une émotion normale. Mais comment faut-il la gérer pour ne pas causer des dégâts et regretter par la suite hein?
Oui, merci beaucoup Daniel pour avoir songé à moi encore une fois. Et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous écoutent en ce moment. J'avoue sincèrement que le sujet que vous évoquez est un sujet très sensible dans la manière où vous voulez parler de la gestion de la colère. Et vous l'avez dit vous-même, la colère est une des émotions qu'un être humain peut éprouver. Mais laissez-moi ajouter que c'est une émotion très très vive qui peut déboucher sur des réactions dans tous les sens si on n'a pas pris des précautions. Et moi je pense aujourd'hui que je vais commencer par dire que pour mieux gérer la colère, il faut d'abord prévenir. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Quand il faut prévenir, je vais dire que chaque être humain doit faire un effort pour se découvrir et se connaître. Connaître qu'est-ce qui lui fait plaisir dans la vie et qu'est-ce qui ne l'arrange pas. De telle manière qu'autour de lui, que les gens puissent savoir qu'en vivant avec un homme comme celui-là ou une femme comme celle-là, il ne faut pas aller dans tel ou tel autre sens, sinon ça va l'énerver. Mais c'est aussi essayer de vivre sans stress. C'est par exemple manger calmement quand on doit manger, manger paisiblement, manger avec plaisir, prendre tout le temps qu'on peut mettre pour manger, pour ne pas être trop pressé quand on est à la table. Mais c'est aussi avoir suffisamment de repos et prendre de l'air libre chaque fois que l'occasion se présente. Mais surtout, travailler de manière ordonnée.
Oui.
C'est-à-dire, dans une organisation, dans un service, celui qui conduit le service doit être en mesure de décrire les tâches à chacun pour que chaque jour, celui qui arrive puisse savoir qu'est-ce qu'il attend comme travail.
Oui.
Parce que parfois, on soumet à quelqu'un des tâches qui ne devaient pas être les leurs, et en ce moment-là, il travaille sous stress et ça le met nerveux, et il commence à s'énerver chaque fois qu'il y a un petit problème qui se présente.
Alors, Isidore Bamanaï,
vivre dans un endroit spacieux et éclairé suffisamment.
Oui.
Quand on vit dans un endroit réduit, on est sujet à des nervosités qui peuvent arriver à tout moment. Vous vouliez dire quelque chose, Daniel?
Oui, tout à fait. On a reçu certaines informations selon lesquelles les maris, par exemple, les maris se fâchent souvent à la maison lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils n'ont pas d'argent et que la femme et les enfants viennent tout le temps poser leurs problèmes, leurs demandes, et quand il n'y a pas d'argent, il est tout le temps nerveux, et puis voilà un peu.
Oui, quand vous arrivez chez les mariés qui sont à la maison, moi je leur propose qu'on parle de l'argent le soir, avant d'aller au lit. S'il y a des enfants qui ont des besoins, qu'ils s'approchent de leurs parents, qu'ils présentent les besoins, avant que ceux-ci aillent au lit. Comme ça, quand ils dorment, ils ont à l'esprit cette demande qu'il faut satisfaire. Si on a des moyens, on peut satisfaire. Si on n'en a pas, on peut dire calmement, ça peut attendre. Mais c'est aussi entre les deux, entre l'homme et la femme, s'il y a des problèmes ayant trait à l'argent, peut-être pour pour vivre, pour préparer le lendemain,
oui.
C'est mieux que ces questions-là soient abordées à la veille.
Pas le matin.
Il ne faut pas que madame attende.
Mmh.
Le matin, monsieur se réveille, il se lave, il s'habille.
Pour aller au service.
À sortir.
Oui.
Pour aller au travail, c'est alors qu'elle se précipite pour dire, mais quand vous partez là, est-ce que nous n'allons pas manger aujourd'hui? Voyez, une question que, comme celle-là, si monsieur a les poches vides, bon, mais aussi, surtout, si monsieur se rappelle que hier, par exemple, il avait dilapidé de l'argent dans des dépenses individuelles,
mmh.
Il va se mettre à s'énerver, il va peut-être donner une réponse qui n'est pas à sa place, et la situation risque de dégénérer.
Oui.
Mais comme vous l'avez évoqué aussi, quand on change de situation sociale, on avait un rang social quelconque, on avait occupé un poste dans les milieux de service, et qu'on est dégradé, où on avait des moyens, qu'on vivait à l'aise,
mmh.
Et qu'à un certain moment, les moyens commencent à manquer, ce sont vraiment des situations qui provoquent facilement la nervosité.
Oui.
Et comme on dit, il faut prévenir avant d'attendre que les grands courroux sortent pour que les gens commencent à fuir à côté de celui qui est entré en colère.
Mmh.
Donc moi, je pense que la première des choses, c'est prévenir.
Il faut prévenir.
Quand on se connaît,
oui.
Quand on se connaît, on ne s'arrête pas à se connaître seulement. Il est mieux de communiquer aux autres. Il est mieux de se dévoiler. Avec les gens qu'on rencontre chaque jour, que ces gens-là puissent dire, que ces gens-là puissent se rendre compte. Quand nous sommes à côté de cet homme, si nous parlons comme ça, ça ne l'arrange pas. Si nous faisons ça, ça ne l'arrange pas.
Mm-hmm.
Ça éloigne de plus en plus de circonstances de colère.
Mm-hmm.
Et petit à petit, je crois que c'est déjà une manière de gérer la colère.
Voilà, nous avons en ligne Didier Djonga depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Bonjour, Radio Capi.
Oui.
Oui, j'ai une question que je voulais vous poser à l'invité.
Mm-hmm.
Ceci, parce que je suis du corps médical, hein.
Oui.
Je suis infirmier de formation, oui. Un jour, j'étais au centre de ville, si le malade comment m'aimait, s'est bagarré avec son grand frère. Mais là, sous l'émotion, la piste est tombée, il a convulsé parce qu'il était en colère. Pour le grec, il était en colère. On l'a amené, j'ai commencé à percuser. Et je l'ai mis sous le diazépam là-bas. Mais là, elle était toujours en colère, malgré qu'elle était en convulsion.
Elle était toujours en colère.
Sous l'émotion-là.
Oui.
Là, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qui peut arriver que la personne puisse tomber en colère comme ça?
Voilà, M. Isidore.
Oui, merci pour la question, Didier. Je pense que nous sommes créés différemment. Nous avons des tempéraments différents aussi. Nous avons un passé qui nous accompagne. Depuis la famille où on est né, depuis la famille où on a grandi. Il y a des situations qui nous sont arrivées dans la vie qui font que parfois quelqu'un peut facilement céder à la colère. Donc c'est là-dedans qu'il faut aller fouiller pour voir, pour le cas qui est arrivé là, qu'est-ce qui met tellement cet homme-là en colère et qu'il entre même en convulsion. Vous savez, quand la colère est trop forte, quelqu'un peut commencer à bégayer, il peut commencer à transpirer. Il peut commencer à avoir des yeux tout rouges. En ce moment-là, s'il a un enfant à côté de lui, l'enfant va être totalement surpris de se rendre compte que comment cet homme est entré en colère comme ça. Et alors, je pense que quand nous vivons chaque jour, nous devons chercher à savoir comment, d'où vient cet homme, qu'est-ce qui l'accompagne dans sa vie, qu'est-ce qui fait qu'il puisse entrer comme ça en colère. Si on arrive à le découvrir, dans
mmh.
le cas que vous décrivez, il n'y a pas moyen que je puisse donner une réponse stricte.
Mmh.
Il faut chercher, il faut fouiller, il faut parler avec la personne. Il faut aller découvrir en lui qu'est-ce qui fait que chaque fois qu'il devient nerveux, il entre en colère et une catastrophe comme celle-là lui arrive. Donc il faut parler avec les patients
mmh.
et lui poser beaucoup de questions pour fouiller dans sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'il se mette vraiment en colère vite, vite comme ça?
Voilà. Nous allons recueillir la question de Viviane Kabei depuis Colosi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
On vous écoute.
Ma question de la fois passée était de savoir si, disons que il m'arrive vraiment de me mettre en colère parfois, hein, depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, selon un médecin que j'avais consulté, il me dira que cela était lié peut-être à mon groupe sanguin. Et je me fais souvent quand quelqu'un me cause du tort, bien sûr.
Et comment réagissez-vous?
Et pour moi, le cas c'est vraiment un peu compliqué parce que si quelqu'un me cause du tort, vraiment, je veux réagir. Si je ne réagis pas, alors là, je peux tomber malade.
Donc, vous réagissez comment? Il faut vous taper du poing sur la table, vous pleurez ou vous faites quoi? Vous
si
balancez?
Si une cousine qui est toute petite, un cousin, je tape. C'est une grande personne, alors là, je peux tonner.
Oui. Voilà. Donc, le médecin a dit que ça peut être lié à votre groupe sanguin. On va écouter la réaction d'Isidore Bamanaï.
Oui, merci Daniel, merci Viviane. Je ne veux pas contredire ce que le médecin vous a dit. Le médecin a dû faire des examens sur votre corps. Il y a découvert ce qu'il a découvert. Mais moi, je vais plutôt chercher à vous aider à gérer votre émotion quand cela vous arrive. Et je crois que nous avons dit autrefois que gérer la colère, c'est d'abord savoir exprimer l'émotion. Quand on n'est pas d'accord avec une situation, c'est mieux qu'on s'exprime. Mais c'est mieux aussi que l'on puisse commencer à s'exprimer calmement pour dire ce que vous avez fait là, ça ne m'arrange pas, ça m'énerve. Et que petit à petit, autour de vous, que les gens puissent découvrir que quand il s'agit de telles situations, Viviane va entrer en colère, elle va trembler, si c'est un petit, elle va taper. Mais attention, si vous avez un couteau à la main, attention avec la colère, ça peut être vite parti dans l'œil du petit ou de la petite.
Mmh.
À ce moment-là, la situation sera très très grave par après.
Alors,
exprimer
oui.
qu'on est en désaccord avec telle ou telle autre situation et essayer de l'expliquer le plus calmement possible. Si vous n'êtes pas en mesure de l'exprimer tout de suite, bon, je vous donne un truc à moi, il est personnel à moi. Moi, quand je suis en situation de désaccord, je m'éteins. Je ne parle pas, je ne dis rien. Je laisse passer le temps.
Mmh.
2-3 heures, même 4 heures, même 5 heures, mais pas toute une journée. Et puis après, quand je sens que je ne vibre pas tellement, je peux approcher la personne et lui dire, est-ce que tu sais que quand tu as dit ça, ça ne m'a pas arrangé. Tu sais que quand tu as fait ça, ça ne m'a pas arrangé. Je crois que ça m'aide de plus en plus à maîtriser les émotions. Parce que si vous êtes sous l'émotion vive, les maladies vont vite arriver. La crise cardiaque, l'hypertension, etc.
Vous avez suivi, Viviane?
Oui, monsieur. Merci beaucoup.
Merci, Viviane, et bonne journée à Colésie.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi. Samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous recevons aujourd'hui Isidore Bamanaï, expert en éducation à la vie, qui intervient de Bungujimaï. Avec lui, nous parlons de la gestion de la colère. Monsieur Isidore, on a appris qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles se fâchent, elles gardent la colère. Peut-être ça peut prendre toute une semaine pour que les vibrations cessent.
Oui, mais bon, je pense que c'est là peut-être, ça doit être très là et même... Je suis tenté de dire que ça ne peut pas exister qu'on soit fâché comme ça.
Durant toute une semaine.
3, 4 jours,
oui.
Une semaine. Je crois qu'au bout de 24 heures, les émotions peuvent se calmer. Mais ce qu'il y a chez d'autres personnes, c'est quoi? Il ne veut pas mettre dans les oubliettes les problèmes qu'on lui a causés, les torts qu'on lui a faits. Il ne veut pas mettre dans les oubliettes. C'est ainsi que. Peut-être que chaque fois qu'il se rappelle de la situation,
oui.
Il a un peu de nervosité ou il est un peu mécontent. Mais rester en colère durant toute une semaine, je crois qu'on risque d'en mourir. Hein.
Mm-hmm.
On risque d'en mourir. Rester en colère toute une semaine,
oui.
ça crée beaucoup de problèmes dans la vie de quelqu'un.
Mm-hmm.
Et je pense que petit à petit, je crois que c'est difficile de demander à quelqu'un d'oublier tout de suite. Mais bon, peut-être dire, bon, c'est déjà arrivé, si c'est arrivé. Les problèmes n'arrivent qu'aux hommes. Et les hommes sont capables de regarder les problèmes, de se pencher sur ce problème, de les analyser froidement, d'en trouver les causes. Et si on a trouvé des causes qui créent des problèmes, si on a trouvé des causes qui amènent les gens à entrer en colère, on supprime petit à petit ces causes-là. Je sais que notre nature est faible.
Oui.
On supprime petit à petit ces causes-là et la vie va devenir un peu plus agréable autour de soi. Je vous assure, Daniel, et je rassure à nos auditeurs, que les conséquences négatives pour quelqu'un qui entre en colère tout le temps, elles sont nombreuses.
Lesquelles, par exemple ?
Vous commencez à avoir des trous de mémoire.
Oui.
Vous commencez à oublier petit à petit ce que vous devez faire. Vous entrez dans le bureau, vous cherchez un dossier, vous allez mettre beaucoup de temps. Parce que vous avez mis dans votre corps ce qui est monté peut-être jusqu'au cerveau et qui a commencé à perturber le fonctionnement normal du cerveau. Or, le cerveau, c'est l'élément moteur qui conduit notre corps dans la vie courante de chaque jour ici.
Nous avons en ligne Mme Irène Kama depuis Matadi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, madame.
Bon, vraiment, merci pour m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de moi. De nature, je suis très, très nerveuse. Et depuis mon jeune enfance, mon problème est que j'explose devant n'importe quoi. Même rien, je ne fais que me fâcher. Je me fâche trop vite, malgré les conséquences. Par exemple, j'ai des maux de tête, parfois des vertiges. Mais je n'arrive pas à me contrôler. J'ai l'impression que les autres ne me comprennent pas tout autour de moi. Mais ma colère était aussi vite qu'elle était venue. Alors je voudrais savoir quel est ce remède. Parce que quand je suis en colère, il y a parfois des paroles blessantes qui sortent. Donc j'ai fait des actes que je regrette après.
Oui.
C'est mon problème.
Voilà, merci, merci Madame Irène. Isidore Bamanaï, que doit faire Irène pour bien gérer sa colère?
Oui, merci Madame Irène pour avoir présenté sincèrement votre cas. D'abord, je voudrais, pour vous aider à gérer votre colère, je voudrais m'adresser aux gens qui vous entourent, des gens qui vous connaissent, qui doivent comprendre petit à petit que vous êtes comme ça et que vous dites vous-même, c'est depuis votre petite enfance, que vous êtes comme ça, vous êtes de nature nerveuse et que, bon... et qu'il commence petit à petit à vous supporter. Et, mais en même temps que vous avez ce problème, je vous invite à prendre conscience que vous êtes nerveuse et que vous entrez facilement en colère. Et, ben, si cela vous arrive, comme Dani m'avait passé quelques trucs la semaine passée, si vous sentez la colère monter en vous, retirez-vous du lieu où on vous a causé du tort. Retirez-vous rapidement. Et puis, rentrer dans la chambre, aller dehors, sous un manguier, commencer à respirer rapidement. Vous respirez rapidement, vous respirez rapidement. Vous essayez de vous concentrer, de garder vos sentiments concentrés sur vous. Et en ce moment-là, je crois que petit à petit, vous allez triompher de la colère qui monte en vous et qui vous fait réagir dans n'importe quel sens. Je vous invite aussi à vous rendre compte que si vous êtes souvent en colère et que parfois il y a des paroles méchantes, oui, c'est vrai que vous allez regretter par après. Peut-être que vous allez dire aux gens, écoutez, moi je suis toujours comme ça. Rassurez-vous, Madame Irène, la personne humaine est capable de changement. Il suffit que la personne se concentre, il suffit que la personne renvoie d'autres désirs à son cerveau et que le cerveau va commencer à fonctionner selon ces désirs-là. Vous devez vous dire chaque jour, je ne dois plus m'énerver, je ne dois plus réagir de n'importe quelle manière quand une situation m'arrive. Dites ça régulièrement à votre conscience. La conscience va transmettre ce désir-là à votre cerveau et vous verrez que petit à petit, vous allez maîtriser vos émotions, excusez-moi, et vous allez vivre calmement et vous rendrez des gens heureux autour de vous. Ce n'est pas un miracle,
oui.
C'est quelque chose de très simple, que vous faites un effort chaque jour, vous éloignez de plus en plus de situations malheureuses, et vous créez des situations d'ambiance, hein, vous écoutez la musique, vous lisez un bon livre. En ce moment-là, je crois que petit à petit, vous allez calmer vos émotions et La vie sera agréable autour de vous, Madame Irène.
Madame Irène, vous êtes encore en ligne. Vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire Isidore?
Bon. En tout cas, merci pour les conseils. Je ferai tout pour appliquer tout ce qu'on vient de me dire maintenant.
Merci, Madame. Bonne journée.
Merci, pareillement.
Nous avons en ligne Monsieur Jenny Nyembo, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Jenny.
Oui, j'avais des préoccupations à ce qui concerne ce sujet. La première, c'est juste, j'ai un oncle avec qui j'y habite. Lorsqu'il est avec nous à la maison, il est vraiment colérique. Au travail, lorsqu'il est avec ses collaborateurs, il est très bien, il sourit, il est très bien, très cool. Dès qu'il pointe seulement à la maison, nous fuyons tous, on ne sait même pas comment l'aborder. Sa femme, tout le monde, il est très, très colérique. On se demande pourquoi. Nous nous sommes renseignés ailleurs, il est très bien, il n'a pas cet état d'esprit chaque fois qu'il est avec nous.
Oui.
La deuxième préoccupation, c'est laquelle? J'ai constaté, là, lorsque là, nous travaillons, souvent, nos chefs, ils connaissent le problème en famille, en foyer avec leurs femmes. Dès qu'ils arrivent au service, ils se déchargent sur nous qui sommes subalternes. Je me demande souvent dans plusieurs domaines, là où j'ai travaillé, j'ai connu de tels hommes. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'invité peut nous expliquer.
Merci, Jenny. Monsieur Isidore.
Oui, merci, Monsieur Jenny. Vraiment, je ne sais pas si c'est votre frère ou votre ami qui, quand il arrive à la maison, tout le monde se retire.
C'est l'oncle. Il parle de son oncle.
Ah, de son oncle, oui. Moi, je vous invite, Jenny, à étudier calmement votre oncle. Parce que vous dites, ailleurs, il est gentil avec tout le monde.
Mmh.
Il peut blaguer, il peut rire. Mais qu'est-ce qui fait que quand il arrive à la maison, il se fâche? Hein? Il faut examiner dans la famille où vivait chez votre oncle, qu'est-ce qui le fâche quand il arrive à la maison? Est-ce qu'il ne se rend pas compte qu'il a trop de charges dans la famille? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que la présence de tel ou tel autre ne l'arrange pas? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que quand il arrive, il n'est pas bien accueilli ou il n'est pas bien servi? Est-ce que, hein? Il faut bien étudier, examiner cette situation, parce que moi j'estime que cette colère-là n'est qu'une façon de cacher un mécontentement quelconque qu'on ne veut pas exprimer.
Mmh.
Et on traduit ça en colère. Il y a parfois des personnalités comme ça, qui n'ont pas le courage d'aller dire, je m'excuse dans le cas de l'oncle de Jenny, d'aller dire, écoutez, j'ai trop travaillé dans cette famille, j'ai pris la charge de beaucoup de gens, maintenant laissez-moi m'occuper de mes enfants et de ma famille. S'il ne sait pas le dire, il va se réfugier dans la colère, et en ce moment-là, la situation est dramatique, et pour lui-même, et pour les gens qui vivent dans cette famille.
Mmh.
La situation est dramatique, cette situation peut l'obliger peut-être à traîner dehors pendant longtemps, et rentrer quand il sera tard et que les gens sont déjà endormis. Donc examinez bien la situation, trouvez qu'est-ce qui n'arrange pas votre oncle. Au besoin, trouvez un moment où il est calme, abordez-le avec beaucoup de respect, et petit à petit, je crois que la situation va s'améliorer. Mais pour les chefs qui sont au service, ça c'est évident.
Oui.
Quand quelqu'un part de chez lui avec des mésententes qu'il a eues avec sa femme, peut-être la nuit ou la veille, de mes ententes qu'il a eu avec sa femme, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, avant d'aller au service,
mm-hmm.
qui n'est pas maître de ses propres émotions, c'est sûr que ça va se décharger sur les collaborateurs au niveau du service. Et à ce moment-là, rassurez-vous, le rendement va diminuer. Aujourd'hui, dans les management, on demande à ceux qui sont responsables de vivre en harmonie avec les lieux de service. De laisser, comme on dit aux joueurs, les histoires qu'on a eues sur le terrain entre deux équipes de football, ces histoires-là sur le terrain.
Oui.
Et quand on est à la maison, on est dans la cité, on est bon ami, on est copain. Hein? Que votre chef fasse un effort, ce qu'il a eu à la maison, que ça reste à la maison.
Mm-hmm.
Il ne doit pas aller t'empêter au niveau de service comme pour réagir devant sa femme ou devant ses enfants.
Voilà.
Je crois que c'est un petit exercice à faire et que ça peut porter des fruits.
Voilà, même dans certaines maisons, il y a certains parents qui sont, on leur colle des noms, vieux shérif, Rambo, lui quand il revient le soir, alors tous les enfants sont terrorisés, ils doivent aller en chambre parce que on risque de recevoir, soit le papa risque de manifester violemment sa colère sur les enfants. Alors pour ce genre de parents à la maison, qu'est-ce qui peut être la cause de ces comportements et comment se maîtriser? Et mettre les enfants en confiance.
Permettez-moi, Daniel, d'abord de dire que ça, c'est une situation déplorable. Si un père de famille, quand il rentre, au lieu que les enfants disent « Papa, yez, allez, sili », les enfants vont fuir pour s'enfermer dans la chambre. Les enfants, là, vont vivre frustrés. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un père qui les a fait venir au monde et qui les aime. Ça, c'est très grave. Excusez-moi d'avoir monté la voix.
Oui.
C'est très grave. Un parent qui se comporte comme ça, un père de famille, je crois qu'il envoie sa famille à la déroute. Il va détruire son image dans l'esprit de ses enfants. Il leur donne une mauvaise image d'un homme. C'est-à-dire, l'homme est toujours celui qui est fâché, qui tape les enfants quand il arrive à la maison. Non, l'homme doit être aussi gentil. Il doit être tout près de ses enfants, quand il rentre en famille, que les enfants aillent vers lui, que les enfants s'ouvrent, que les enfants expriment ce qu'ils ont comme besoin, même seulement ce qu'ils ont comme affection envers leur père. C'est une vraiment attitude à condamner.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qui est à la base? Peut-être, je ne sais pas, peut-être que cet homme vit avec une femme qu'il n'aime pas et qu'il a eu des enfants avec cette femme-là. Ils ont commencé leur mariage dans une aventure. Une première grossesse est arrivée et ils ont été forcés à se marier. Ça, c'est une piste. Peut-être que cet homme a des situations qu'il ne veut pas que les enfants connaissent. Ce sont parfois des hommes qui ont des enfants en dehors de la famille et qui passent leur temps là-bas et qui veulent vivre en cachette. Il ne faut pas que quand il arrive à la maison, qu'on lui pose beaucoup de questions, qu'on les regarde dans les yeux. Peut-être que l'épouse qui est à la maison est déjà un peu au courant de la situation.
Oui.
Il craint que l'épouse ait parlé aux enfants.
Oui.
Et que les enfants viennent lui poser des questions.
Oui.
Hein? C'est peut-être un homme qui, souvent il revient sentant l'alcool ou quoi, je ne sais pas.
Mm.
C'est un homme qui est déçu au service et qui transporte ce qu'il a eu comme problème au service et qui le ramène à la maison. Il y a autant de pistes qu'on peut explorer pour dire qu'est-ce qui arrive à cet homme-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger la situation?
Voilà, Winston, la dernière réaction de Winston depuis Siron. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Moi, depuis la France, moi, j'étais bègue. Bon, pour le moment, je bègue un peu difficilement. Bon, au lieu du travail, quand nous sommes à Réunion, les amis me traitent toujours de colérique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour de telles situations?
Isidore Bamanaï.
Oui, merci pour la question. Je crois que dans la nature de quelqu'un qui est bègue, hein, c'est plus facile qu'il puisse se fâcher. C'est plus facile. Parce que quand il a besoin de s'exprimer, les mots n'arrivent pas aisément. Et quand les gens le regardent et qu'ils ont envie d'écouter vite, vite ce qu'il doit dire, et que lui est en train de lutter pour dire ce qu'il doit dire, je crois que ça énerve tout de suite. Mais bon, je crois que comme les amis le constatent au niveau du service, que nous avons affaire à quelqu'un qui est bègue, le bègue, on lui demande de bien réfléchir avant, de prendre une disposition pour pouvoir s'exprimer et de commencer à s'exprimer calmement, mot à mot, sans se précipiter, sans vouloir aller tout droit jusqu'à la fin de son idée, de s'exprimer calmement. S'il maîtrise sa condition de bègue, je crois que la nervosité va aussi diminuer petit à petit et plus tard il peut devenir serein. Mais les gens qui travaillent avec lui au niveau du service, faudra seulement leur demander de l'aider, d'être patient quand il prend la parole, de continuer à écouter, peut-être de lire dans sa pensée ou de dire vous vouliez dire ceci. Donc je crois que cette gentillesse-là peut entourer notre ami et aussi petit à petit ça va l'aider à gérer sa situation de bec et même dans sa situation de nervosité.
Isidore Bamanaï, expert en éducation à la vie, intervenant depuis Mbujimayi au Kasaï oriental.